l'autoroute Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds dans le sens de la montée. N'hésitez pas, hein, si vous aussi avez des nouvelles concrètes de la route pour nous, nous sommes preneurs au tarif local 0800 42 363 363. Bonne route.
Retrouvez les infos routes sur www.mogo.ch.
Soyez tous les bienvenus, nous sommes à l'ombre du Baobab pour notre causerie quotidienne, 9h30.
Radio Fribourg.
À l'ombre du Baobab, avec la loterie romande.
Une première fois, ça compte dans la vie d'un homme et d'une femme aussi. C'est le baptême du feu pour beaucoup de monde aujourd'hui. C'est le premier long métrage de notre invité. Et c'est la toute première fois que Sophie vous accueille à l'ombre du Baobab. Bonjour.
Certes oui, welcome, bienvenue à l'ombre de ce baobab un petit peu enneigé aujourd'hui. Mais on va essayer de réchauffer l'atmosphère en parlant de voyage, en parlant de l'inconnu, en parlant du fabuleux destin de Frédéric Chauffat qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Ouais, ça fait bien, hein.
Ouais,
le
absolument.
Fabuleux destin de Frédéric Chauffat. Un petit peu le régional de l'étape en fait, puisque vous avez grandi à Payerne.
Absolument. Donc le régional d'étape ici, où il y a l'ombre, c'est Baobab, à l'abri de la neige plutôt, je dirais, mais l'arbre est très très beau quand même, je suis très content.
Il est pas mal, il est un peu, comment dire, il a des couleurs, ce sont pas forcément des couleurs naturelles, mais c'est vrai que j'espère que vous vous y sentirez bien. En tout cas, on va tout faire pour que ce soit le cas. On va parler de ce premier long métrage, Grande Aventure, c'est La vraie vie est ailleurs. La vraie vie, elle se trouve en l'occurrence apparemment dans un train, dans plusieurs trains. Ce sont des couples qui sont formés par le hasard de la vie, qui se retrouvent dans une gare, qui se retrouvent dans un train et qui vont faire un petit bout de chemin ensemble. On va tout de suite écouter la bande-annonce de La vraie vie est ailleurs.
C'est vous la 85?
Oui.
Ah, c'est quoi ce bordel? C'est à vous toutes ces affaires?
Bah oui, c'est à moi. Je déménage à Napoli.
À Naples en plus, le paradis de la mafia.
Bah écoutez, je me passerai vraiment de vos commentaires.
Y a personne pour vous tenir compagnie, ni pour vous sauver en cas de problème. Vous êtes sous ma responsabilité, je suis obligé de m'installer chez vous.
Hein?
J'arrive tout de suite.
Non.
Histoire de vous mettre un petit peu dans l'ambiance, une des trois bandes-annonces de ce film. Il y a trois bandes-annonces parce qu'il y a trois de ces duos qui se retrouvent un petit peu catapultés. Elle vient d'où cette idée de rencontrer des gens par hasard et de voir où ils vont?
Elle vient du train, ça c'est sûr, et elle vient de mon envie chaque fois de la rencontre, de qui on... Je pense que le lieu par excellence dans lequel on se retrouve et on n'a rien à faire et on doit attendre. Là, je suis venu de Genève ce matin en train et le paysage était fantastique, la neige défilait et en face de moi, je m'étais mis au café et il y avait quelqu'un qui s'extasiait comme ça sur le paysage. Donc, de fait, on s'est mis à parler du paysage et de la vie et de plein d'autres choses et c'était passionnant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a plus difficilement dans un bus et encore plus difficilement dans une voiture. Donc, c'est vrai que c'était l'endroit idéal pour proposer ces rencontres et puis faire l'histoire de destin croisé de trois personnes qui partent de Suisse dans trois directions linguistiques. La partie italienne, française et allemande, et que durant ce voyage, et bien tout d'un coup, ils vont être opposés à leur contraire, ils vont peut-être être bousculés dans leur certitude, dans leur intimité, et se remettre en question.
C'est quand même assez étonnant venant d'un Suisse. On dit toujours que la Suisse, on est froid, ou que dans les trains, justement, on parle pas avec le voisin d'en face. Ça casse un peu cette image-là.
Oui, je crois. Enfin, c'est une image qu'on peut avoir, mais elle est certainement fausse.
La preuve est là.
De mes femmes. Et puis ces trains passent les frontières, donc aussi c'est la différence d'un voyage où on fait Nyon-Copé, ou Nyon-Genève, ou Fribourg-Givisier. On est d'un coup dans une temporalité plus longue, et puis je pense que c'est là que des choses se nouent parfois.
Ça part sur Marseille, sur Naples, ça part aussi en direction de l'Allemagne. Et puis il y a ces personnages, à chaque fois ce sont des couples, hommes et femmes. C'était tout prévu d'avance en fait. C'était sur cette ambiguïté-là aussi que vous vouliez jouer?
La vie est bien foutue parfois. Non, c'était le thème global, même s'il n'est pas explicité, même s'il n'y a pas de débat à ce propos durant le film, c'était vraiment de parler de la relation masculin-féminin. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être une femme, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être un homme, dans trois déclinaisons. Donc c'est trois histoires, mais qui pour moi en forment qu'une seule, autour un peu de ce thème, qui est le thème de 95% de tous les scénarios, qui est qu'est-ce que fait un homme quand on rencontre une femme, ou qu'est-ce qui va se passer, plus que le suspense, se dire, est-ce qu'à la fin ils vont tomber amoureux, est-ce qu'il y aura relation sexuelle, est-ce que c'est surtout comment comment entre la fin et le début de cette rencontre, qu'est-ce qui va se passer? C'est plus ça qui m'intéresse.
Tout est dans le détail et la subtilité. C'est vrai qu'il n'y a pas de scène porno, par exemple. On pourrait s'y attendre, mais non, pas du tout. Tout est très subtil, autant dans la musique que dans le jeu des personnages, ou comment l'histoire est amenée, ces gens qui se croisent. Il y a un plan séquence extraordinaire au début du film. On s'est dit, mais comment ça a été fait? C'est vraiment une sorte d'atmosphère, de, comment dire ça, ouateuse, on peut dire ça comme ça?
Peut-être, ouais, surtout si on le voit sous la neige.
C'est sûrement pour ça, mais non, il ne neigeait pas quand je l'ai vu. On va pas dévoiler la fin du film, mais il apporte beaucoup de questions quand même. C'était voulu ça, une remise en question non seulement des personnages, mais de ceux qui vont voir le film?
Ben, personnellement, j'ai pas assez de certitude pour... Enfin, j'ai des convictions, mais aucune certitude, donc j'ai pas de message ou de conclusion à donner par rapport à ce film, en tout cas. Le titre lui-même, La vraie vie est ailleurs, pour avoir un point d'interrogation, comme il pourrait être une affirmation, c'est ni l'un ni l'autre. Ou ça reste une question, disons, qui est répondue en partie par le film, mais je pense que chacun ensuite a son petit travail à faire. On va pas tout mâcher. Je suis contre un divertissement où on vous raconte tout et à la fin, voilà, on sait tout. C'est pas non plus une fin ouverte, mais c'est une fin où chacun y trouve du sien, je pense.
Au niveau des acteurs et des actrices, il y a donc six personnages phares. Ce sont les membres de ces trois couples improbables, on va dire, c'est comme ça. Ils viennent d'où? Ce sont des acteurs suisses, on les a pas forcément beaucoup vus ailleurs, certains dans un de vos courts-métrages avant, mais comment vous les avez castés?
Alors, c'était ma volonté de travailler vraiment avec des gens de Suisse romande. Je sais pas que j'aurais fait une sélection de nationalités, parce qu'il y en a la moitié qui sont italiens, enfin d'autres origines, et françaises, etc. Mais vraiment de travailler avec des gens qui me sont proches. Donc tous, je les connaissais, disons que sur les six, il y en a quatre que je connaissais, deux que je connaissais très bien et deux que je connaissais pas. Mais j'avais envie vraiment de réduire de partir avec les gens qui étaient autour de moi, avec de dire, bon ben voilà, lui, les comédiens, je l'ai vu dans telle pièce, on va essayer de travailler plutôt que d'aller à Paris, à Berlin, faire des castings, etc. C'était vraiment de se dire, bon ben, quelle est cette famille? Parce que je pense vraiment à une famille du cinéma ou du théâtre. Et c'est vrai que de toute façon, il y a peu de films qui se passent, qui se tournent en Suisse ou en Suisse romande. Donc aucun de ces comédiens n'avait fait de long métrage, ou alors ça avait été fait avant, ou etc. Mais chacun, c'est quand même une première aussi. En tout cas par rapport à cette expérience-là. Et tous viennent entre Fribourg, Lausanne et Genève, on va dire.
D'accord. Et le scénario, je crois que vous l'avez écrit avec une certaine Julie avec laquelle vous collaborez depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est cette Julie?
Qui c'est Julie? C'est une grande question. Au départ, il y a aussi la rencontre d'un homme et d'une femme, donc tout est à l'origine de tout. Julie, c'est la personne avec qui je travaille, donc qui est scénariste et auteur de théâtre. Et avec qui depuis 10 ans, on travaille, on vit et on fait des choses. Donc c'est vraiment une écriture, c'est chaque fois une sorte de rebond entre ce qu'elle fait, entre ce que je fais, entre une lecture parallèle de nos travaux. Et c'est vrai qu'elle est à l'origine de cette histoire, dans une coécriture de chacune de ces trames, dans chacun de ces récits.
Et donc l'homme et la femme sont complémentaires? On va vous laisser tousser.
Je tousse un petit peu, la neige et tout ça. Non, oui, en effet, je pense qu'on est complémentaires au même titre que dans les histoires. Et en tout cas, dans notre travail, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et chacun a sa particularité, chacun a son... permet de remonter le moral de l'autre ou de redonner l'allant, ou etc. Ce qui permet d'être toujours en mouvement.
Mais qu'est-ce qu'elle apporte dans un scénario que vous ne pouvez pas apporter?
La première chose que je dirais, mais qui est peut-être pas totalement juste, c'est la part féminine. Mais je pense aussi avoir une part féminine et elle une part masculine. Donc je pense que elle a pas écrit les personnages de femmes, ni moi les personnages d'hommes et vice versa. Je pense que c'était aussi mon regard sur la femme qui était intéressant. Enfin, une fois on m'a dit, ce film c'est un beau portrait de femme. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce que je pense que c'est pas assez souvent dans le cinéma. Et puis parce que ça témoigne de mon intérêt aussi à comprendre l'autre, quel qu'il soit, enfin quel que soit son sexe. Ce qu'elle apporte, donc ça va être du rebond, ça va être je propose une idée et elle va dire mais non, mais on va la tourner dans l'autre sens, et ça va être plutôt ça. Donc après, c'est pas par rapport à elle va pas y mettre la deuxième couche et moi la première, ou etc. Je pense que c'est vraiment comme deux mains liées, et chacun a son rôle, même s'il est pas du tout défini.
Autre rôle très important dans ce film La vraie vie est ailleurs, le long métrage de Frédéric Chauffat, c'est la musique. Elle a un rôle super important dans ce film. Elle est signée par Pierre Odetta. C'est parce qu'il est si bon que vous lui avez donné une place si importante à sa musique?
Alors oui, avant tout, parce que c'est vraiment un très bon musicien, donc il y a Lausanne, quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé. Mais elle est très importante parce qu'elle est belle, je vais dire, et en même temps, il y en a très peu. C'est-à-dire que sur tout le film, il y en a peut-être bout à bout, tout en étant mêlé avec des ambiances, il y en a peut-être 12-13 minutes à tout casser.
Pas plus?
Non, non. Mais par contre, elle a une importance parce que je pense qu'elle est mise en valeur. Et pour moi, c'était très important de trouver à quel moment il fallait qu'elle s'insère. Bon, disons 15 minutes à tout casser. À quel moment est-ce qu'elle s'insère? Mais je suis toujours à m'opposer, le premier à m'opposer à des films où dès qu'il y a une émotion, on a les violons, on a les musiques. Et bien sûr, c'est plus facile de nous tirer une larme ou un sentiment à ce moment-là. Mais c'est aussi souvent écrasé le travail des comédiens, l'atmosphère qui se dégage de la scène.
Et puis, cette musique avec Piero Detta, comment vous l'avez construite? Parce que c'est moitié jazz, moitié électro. Est-ce que vous lui avez vraiment fait une commande spéciale ou vous vous êtes adressé à lui parce qu'il faisait le genre de musique que vous aimiez?
Non, alors c'est un mélange assez étrange. C'est vrai que durant le montage, on n'a pas encore de musique, donc la musique n'existait pas, ni avant le film, ni pendant le montage. Et puis moi, j'avais ma discothèque et j'essayais de dire, bon, ben là, j'ai envie de... Il y a des parties un peu plus romantiques dans ce film, mais j'avais pas envie que ça fasse trop cucu la praline, donc j'avais envie d'imaginer une guitare un peu métallique ou un truc un peu qui grince comme ça. Je pensais à la musique de Deadman, fait par Neil Young, par exemple. Je pensais, donc j'avais des sortes de thèmes d'inspiration comme ça que je collais sur le montage en me disant, ça serait pas mal, ça donne une idée. Mais j'avais envie d'une musique originale. Ensuite, j'avais pas envie de trouver un musicien qui puisse me faire un pseudo, parce que je me suis adressé à deux, trois personnes, ils m'ont dit, ah ben, on peut faire quelque chose qui ressemble à ça ou à ça. Sinon, moi, j'ai envie de faire quelque chose qui vous ressemble et qui puisse correspondre à ce que j'ai envie pour le film. Et depuis le début, je me disais, il faudrait que je bosse avec Piero Detta. Piero Detta est compositeur, pianiste et programmateur de clavier et de synthé. C'est pas un Ed Sampler, c'est pas un guitariste. Mais d'un coup, à force d'aller plutôt chercher des guitaristes, je me dis, bon, bah, je vais demander à Piero Detta, il va faire la composition et il va me proposer des gens pour travailler avec. Donc c'est sur cette base-là qu'on est parti. Moi, j'ai proposé une amie qui est Jasmine Plus, qui est de la région ici et qui est chanteuse, pour faire les parties de vocales. Et puis, il lui a proposé un guitariste, Pierre-Alain Berthollet, qui est un Lausannois, qui est un très très bon guitariste. Et du coup, on est parti, ou lui est parti avec son idée de la musique, de ce qu'il aime, de justement cet aspect de bidouillage, de programmation de sampler, etc. Et puis, une guitare très naturelle, posée dessus, et puis par moments, des murmures ou des bouts de voix qui veulent pas forcément dire grand-chose, mais qui sont juste un appel, comme ça, côté plus humain de la musique. Et puis, pendant plus d'un mois, on a travaillé, où lui me faisait une proposition, je disais, non, c'est pas du tout ça. Enfin, c'était des super beaux morceaux, mais ça collait pas, soit c'était trop empathique, donc on est dans un moment un peu dur et c'est un peu dur, soit au contraire ça tuait toute l'émotion et voilà. Puis ensuite c'était un ajustement, il me proposait quelque chose d'autre, je disais non, mais là, trois jours après je le réécoutais sur un autre bout et tout, finalement c'était bien. Donc voilà, ça a été beaucoup beaucoup de boulot pour arriver à quelques morceaux dont moi je suis très content, et par le fait qu'ils correspondent à ce que je voulais pour le film, et par le fait que pour moi ils ont vraiment la touche, l'empreinte digitale de Piero Detta. C'est pas travesti pour faire une musique qui correspond à ce film, j'ai l'impression.
Eh bien, on va laisser les auditeurs en juger avec cet extrait de la bande originale de La vraie vie est ailleurs de Frédéric Chauffat, signé Piero Detta.
We'll be right back.
comme une invitation au voyage. La vraie vie est ailleurs, de Frédéric Chauffat, interprété en musique par Pierre Odetta. Ce film a aussi quelque chose de particulier, apparemment dans la manière dont il a été fait, puisque c'est pas forcément facile de filmer dans un train. Une équipe de cinéma, c'est beaucoup trop de monde pour un petit wagon, ou du moins pour un compartiment. Comment ça a été géré, ça?
On avait un très très grand studio, et avec des trains comme ça qui se déplaçaient, des parois qui s'ouvraient, des éclairages par les toits. Non, c'est pas vrai. On était une très très petite équipe, c'est beaucoup plus simple. Non, tout s'est fait vraiment avec un minimum de personnes. Pour moi, c'était très important dans ce travail d'être autour du comédien, c'est avant tout un travail de direction d'acteur, de comédien, de cette relation entre les deux comédiens, la caméra qui doit, donc Séverine Bard, qui doit aussi improviser, et mon rôle, quoi, de chef d'orchestre, de metteur en scène. Et c'est vrai qu'on est parti, souvent avec juste les deux comédiens pour chacune des histoires, la caméra woman, un ingénieur du son, un assistant ou responsable de la production et moi-même. Donc on était une équipe technique, comédien compris, réduit à 5 personnes généralement, 5 à 6 personnes.
Et ça, c'est quelque chose de super rare quand on fait un film quand même.
Ah, ça, c'était un bonheur total. Alors après, ça a des limites. Après, moi, je revendique pas ce système-là pour n'importe quel film. Mais cette histoire le permettait vraiment. C'était vraiment être sur la relation qui allait naître entre ces deux personnages, sur une grande part aussi laissée aux comédiens par rapport au dialogue. Donc il y avait une improvisation très très contrôlée. La trame, la structure était très définie, mais les dialogues devaient être malléables, devaient venir de la part des comédiens, et moi je les retouchais, je les modifiais, mais ils étaient un petit peu créés à mesure. Et puis ensuite aussi, profiter du cadre. On est par exemple dans un compartiment, un wagon-lit en direction de Naples, et le film va durer toute la nuit dans ce compartiment couchette, entre une femme qui part à Naples et un couchettiste. Et c'est vrai que du coup, réduit au minimum, sur un étage, il y avait la caméra woman, l'étage d'en dessus, il y avait l'ingénieur du son, l'étage d'en dessous, il y avait la comédienne, au pied de la comédienne, il y avait moi avec un moniteur pour vérifier ce que faisait la caméra woman qui était à l'étage d'en dessus. Et en face, il y avait l'antagoniste du personnage principal. Donc c'est vrai que c'était galère, mais c'était passionnant parce que ça veut dire que tout le reste, il passe derrière. Enfin, c'était aussi un accord avec la caméra woman d'être autour du jeu des comédiens, donc d'avoir un éclairage qui est fixé dès le départ, et on va pas retoucher entre chaque plan, entre chaque phrase, mettre un petit drapeau pour empêcher la lumière de taper dans l'œil. Donc de faire vraiment quelque chose qui fonctionne et qui puisse rester au fil de la journée, ou de la demi-journée en tout cas, et ensuite de s'attacher vraiment au dialogue, au jeu, à ce qui va se passer, à l'image, au cadre.
Justement, le cadre, il change tout le temps quand on est dans un train. Si la scène n'est pas bonne et qu'on la refait et que, la super montagne, elle vient de passer, on fait quoi? On fait reculer le train? Comment ça se passe?
Non, on accepte, on attend qu'il y ait une super montagne qui passe, ou on triche aussi, à savoir, par moment, le train est peut-être à l'arrêt. C'est une question que je peux poser. Ça se voit pas, mais les scènes de nuit peuvent être en partie tournées à l'arrêt. Et puis, ensuite, c'est aussi profiter de l'improbable, profiter, comme justement dans n'importe quel train, de ce qui va se passer. Et c'est aussi tout d'un coup, au moment d'une question existentielle profonde, par exemple, on pourrait passer, ce qui n'est pas le cas, mais sur un viaduc, sur un fleuve ou je ne sais pas quoi, et ça va donner une profondeur différente encore à ce qu'on dit.
Et comment vous avez géré ça? Est-ce que vous avez loué des trains pour tourner le film, ou est-ce que vous vous êtes incrusté comme des voyageurs normaux?
Alors, vu qu'il y a trois voyages, il y a trois situations très différentes. Celle de Marseille, étant donné que c'est la première qu'on avait tournée, était beaucoup plus opération coup de poing. Comme ça, on avait une autorisation pour aller dans le TGV en direction de Marseille. Les 10 premières minutes de cette série-là se passent en effet dans ce train. Et là, c'était pas en temps réel, mais il fallait, pendant ces 3h15, tourner tout ça, tourner avec les gens qui étaient sur place. Les figurants sont des gens du train qui ont accepté de... Alors, c'était assez magique, parce que j'étais attention au moteur en silence. Ça se décernait aux comédiens. J'allais pas demander à tout le wagon de faire un silence absolu. Et là, tout le monde retenait son souffle, que je les ai coupés. Parfois, les gens applaudissaient ou faisaient leurs commentaires sur comment ça s'était passé, etc. Donc, c'était des moments magiques. Un grand-père, un vieil homme à la fenêtre d'à côté tenait le rideau pour empêcher le soleil de taper sur le visage de Sandra, parce que sinon, ça l'éblouissait totalement. Donc, il faisait à sa manière la lumière aussi pendant le. Donc, ça, c'est une expérience où ça s'est vraiment passé en live, en nature, et c'était passionnant, mais avec des restrictions, qu'il fallait faire attention à la durée, qu'on passe dans un tunnel ou qu'on passe sur un pont, le son il change à tout moment. Donc on fait un plan sur la femme, et puis on a un son très bas, on fait sur l'homme et on a un son très fort, donc c'est très difficile à mixer après. Et puis la partie de Naples qui se passe justement dans ce wagon-lit, wagon-couchette, s'est passée en grande partie dans un wagon immobilisé, dans un entrepôt à Valorbe. Et là donc on était dans la nuit totale, et ça nous permettait de travailler de jour et de pas se faire le train pour Milan ou Rome 10 fois en une même semaine, ce qui aurait été insupportable au niveau du son. C'est-à-dire qu'on peut même pas se parler comme ça dans un train couchette. C'est encore des vieux trains, donc il faut toujours hurler. Donc déjà, par rapport aux comédiens sur la scène, s'ils doivent tout le temps hurler, c'est difficile d'être dans la demi-teinte. Et puis aussi, à moi qui dois leur donner des indications à la caméra qui doit me répondre. Enfin, c'est quelque chose au bout de, on l'a fait en aller, on l'a fait en retour, c'est la fin du tournage, pour retourner toutes ces scènes et profiter de ces moments chemin promptu, de soleil qui se lève à 5h30 du matin, etc. Mais c'était pas quelque chose qu'on pouvait, qu'on aurait pu faire pendant une semaine. Et c'est beaucoup plus simple après de coller une ambiance de train et de travailler justement au mixage pour donner vraiment une impression de voyage qui est bien plus grande que si ça avait été juste un peu trash dans le train tout du long.
Et puis vous parliez justement des acteurs et des comédiens de ce film. Ils avaient donc une grande liberté par rapport à ce qu'ils allaient dire. Ils ont dû beaucoup improviser sur le moment. Où étaient les limites ?
Les limites, c'était qu'on soit toujours en accord avec l'histoire et avec ce que je voulais raconter. Et en même temps, c'était important pour moi de me laisser influencer, de laisser voir ce qui se passe, de me dire, ah ben il y a un charme qui opère entre ces deux personnages plus rapidement que j'aurais pensé. Donc à moi de redresser le coup avec la prochaine arrivée du cogitiste, par exemple, si on est sur cette histoire, où il faut qu'il redevienne plus sec ou plus agressif pour casser ce sort de... Si au bout de 10 minutes, ils sont déjà tout séduit, ça va pas fonctionner, ou le contraire, là il y a une trop grande distance, donc ça va être de travailler la matière, mais malgré tout, tous les dialogues étaient à créer ensemble. Donc je veux dire que les comédiens proposaient quelque chose qui était aussi nourri de leur... Le personnage était très très construit, ils savaient qui ils étaient, et qu'ils devaient pas sortir de ce personnage pendant tout le tournage. En gros, on était vraiment sur la continuité de ce qui se passe, et de ce qui s'est passé la veille, et de ce qui allait se passer le lendemain. Mais ensuite, il avait... il y a des phrases qui sortent, il y a des perles, et puis par moments, il y avait des trucs, je disais non, ça va pas du tout. Et c'était vraiment... Je dirais phrase par phrase, on n'est jamais parti d'une improvisation de 10 minutes, mais tout d'un coup, il dit, maintenant tu rentres, tu vas être étonné de ce qui se passe, et tu dois montrer ton désaccord. Donc comment est-ce qu'on va le formuler? Donc il essayait, on répétait, jusqu'à trouver la bonne phrase, et on la tournait.
Comment ils l'ont pris, eux? C'était du coup, on leur demandait de mettre beaucoup plus les mains à la pâte?
Oui, mais je crois que pour tout le monde, c'était une expérience très, très enrichissante parce qu'ils ont eu l'impression d'être employés à 100% de leur potentiel. Ils avaient pas, ils étaient déchargés de la partie des fois un peu ingrate ou difficile d'apprendre un scénario de 120 pages, ligne par ligne, mot à mot et d'être complètement juste. Mais du coup, ils pouvaient aussi rebondir sur des expériences vécues, sur des choses qui tout d'un coup les scandalisent ou tout d'un coup les touchent et de se dire, mon personnage, c'est-à-dire moi comédien, mais influencé par tout ce qui a été écrit par l'histoire, c'est comme ça qu'il va réagir et c'est ça qui va sortir, par exemple. Quoi.
D'accord. C'est à voir. Il est sur les écrans, il est sorti le 17 janvier. La vraie vie est ailleurs. Un film de Frédéric Chauffat. Et Frédéric Chauffat ne fait pas que des films, il écoute aussi de la musique. Il nous a amené quelques petits morceaux assez atypiques, comme cette plage numéro 6, Arboles de la Barranca.
Si, Arboles de la Barranca, c'est une musique ranchera, donc une musique mexicaine, qui est dans les ranchs, les bandas, donc ces fameux groupes. El Coyote et su banda, c'est le groupe en question. Et c'est ces tubes qu'on entend au Mexique, j'ai vécu 6 mois dernièrement, qu'on entend dans chaque bus, dans chaque petit taxi, dans chaque véhicule, et celle-ci, ou dans la rue, même un vieil homme qui passe avec un trombone à coulisses et son fiston avec un maracas, et qui vont aller de maison en maison comme ça. Et Arboles de la Barranca, c'est un des plus beaux morceaux du genre.
Mexique, nous voilà.
Del río Florido me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. We'll be right back.
día de veras me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar.
Et ouais, un peu de voyage, que diable. Le baobab s'est transporté en Amérique latine.
Bon, alors 6 mois au Mexique, c'est ça? 6 mois à New York aussi, c'était pour le travail, tout ça?
Le travail et la vie, enfin, même si les deux choses sont toujours mêlées ensemble, hein, c'était à chaque fois une volonté de voir ce qui se passait, de savoir comment on pouvait travailler, moi et Julie Gilbert, dans le milieu, de le découvrir, de se dire est-ce qu'on va rester, est-ce qu'on va revenir. Toujours cette longue quête de savoir si la vraie vie est ailleurs, c'en est des chapitres.
Mais pourquoi elle est si loin? La vraie vie, elle est aussi loin que ça?
Non, mais il n'y a pas besoin d'aller 6 mois à Paris pour découvrir Paris, peut-être. Enfin, ou peut-être. Ou Lyon, ou donc c'est des endroits où on peut aller de façon plus régulière et de façon plus courte. C'est vrai que pour découvrir New York ou Mexico, c'était pour moi important d'y rester longtemps et de voir ce qui allait se passer.
Alors, né à Agadir au Maroc, nationalité suisse et française, il a grandi à Payerne, est allé à l'école notamment en Valais. Frédéric Chauffal, ses racines, elles sont où, finalement?
Je suis un peu perdu, mais j'y travaille. Non, ce qui a un avantage, quand même, c'est que du coup, là, on a fait 4 premières la semaine dernière pour le film, à Fribourg et Bulle, enfin, c'en était 2, juste le week-end d'avant, dans le cadre du Ciné-Club, Ciné+, et ensuite Genève, Lausanne, Neuchâtel, et à chaque fois, il y avait de la famille ou des amis, donc c'est très agréable, et les distributeurs étaient très contents, disant, c'est bien.
Ah ouais, du coup...
Voilà, à chaque fois, il y a des petits coins de racines, ou des endroits où j'ai fait les écoles, ou etc., et du coup, c'est... Je me sens et bien et mal nulle part, on va dire.
D'accord, donc c'est pas si mal que ça la Suisse, mais la Suisse, côté cinéma, c'est pas non plus la grande classe. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'on peut être cinéaste, gagner sa vie en faisant du cinéma, tout en étant et en habitant en Suisse?
Je pense que la question ne se pose pas là. Je pense est-ce qu'on peut être bien et vivre de son cinéma, ça c'est une question qui est universelle, ou qu'on soit. Après la question c'est avec quel compromis ou avec quelle exigence, et ça c'est la même question aussi où qu'on soit. Et après c'est notre aptitude à aimer se plaindre ou à aimer s'enthousiasmer pour les choses. Donc on peut se plaindre de beaucoup de choses en Suisse, on peut aussi être très content d'avoir un niveau de vie qui, même quand on décide de vivre avec un minimum parce qu'on veut faire que ce qu'on aime et on n'a pas envie de faire des compromis, ou le minimum... Dire qu'on fait jamais de compromis serait faux. Dès le moment où on accepte de jouer le jeu et de faire ça, moi je suis totalement satisfait. Bien sûr, faut ouvrir sa gueule de temps en temps, ne pas être content de certaines politiques, mais faut avant tout faire des choses, je crois. Et pour moi, la passion, c'est de pouvoir faire du cinéma, c'est de pouvoir le faire avec ce que j'ai quand je peux et de la manière dont je peux, et de pas s'arrêter. Et après, en effet, je pourrais déplorer de peut-être parfois de pas avoir de mentor, ou il y a des Alain Tanner ou quelques figures suisses ou Godard qui sont pour moi dont j'ai plein de respect pour eux. C'est vrai que peut-être d'être à Paris, on est plus dans une concurrence, on est plus à se dire ah mais j'ai croisé tel jeune réalisateur, c'est génial ce qu'il est en train de faire. C'est quelque chose qu'on vit un petit peu moins en Suisse, mais encore une fois, libre à nous, libre à moi de partir quelques semaines à Paris et de rencontrer ces gens si j'ai envie ou si j'ai la possibilité, et puis d'être ici et de raconter. Je pense qu'on peut raconter malgré tout. C'est un peu mon constat après 6 mois à New York ou 6 mois au Mexico. On peut parler que de ce qu'on connaît vraiment et on peut parler que d'où on vient.
Mais est-ce qu'on en vit bien du cinéma?
Ça dépend si le bien c'est au niveau des dollars qu'il y a sur le compte en banque ou de la qualité de vie. Mon compte est assez sec, mais ma qualité de vie est assez élevée. Donc c'est-à-dire que j'ai du bonheur à vivre avec les gens que j'aime, avec la famille que j'ai, avec ce que je fais. Donc, et depuis 10 ans, en étant indépendant, sans toucher de chômage, sans avoir de gros trous, sans moments d'ennui, jamais malheureusement d'ennui, avec toujours des projets qui s'échelonnent, donc oui, on peut en vivre bien. Si le bien, c'est ça, oui.
Vous parliez de concurrence à Paris, il y a aussi finalement quand même un petit peu de concurrence en Suisse. Apparemment, il y a de plus en plus de cinéma suisse qui est apprécié. Il y a, je crois, 10% supplémentaires d'entrées en ce qui concerne le cinéma suisse cette année, d'après les chiffres de Nicolas Bidot que j'ai vu.
Alors, c'est pas 10% supplémentaires, c'est 10% en tout. Ce qui est quand même, c'est-à-dire que jusque-là, on était à 2, 3, 4% d'entrée par rapport au marché normal. Cette année, on a dépassé le cinéma français. Et c'est vrai que par rapport à une écrasante majorité qui devait être à 70% du cinéma américain, on a tout d'un coup un 10%. Mais parce qu'il y a eu Grounding, il y a eu Mon nom est Eugène, il y a eu quelques films phares comme ça, principalement suisse-alémanique, qui ont fait que tout d'un coup, c'est peut-être un cinéma plus américain ou plus populaire, dans le sens que l'entend Bido, qui a appelé plus de gens, mais c'est très dangereux aussi de se fier seulement sur ces chiffres, parce que l'année prochaine, il y aura d'autres films, mais c'est pas forcément des locomotives comme ça qui vont rameuter un énorme nombre de foule, et c'est pas forcément ça qui est signe de qualité ou pas du cinéma suisse.
Mais dans les faiseurs de cinéma suisse, il y a des gens comme Jean-Stéphane Bron, Lionel Bayer, Frédéric Chauffin. Vous vous connaissez bien? C'est un cercle, entre guillemets, restreint où vous avez beaucoup de contacts, ou chacun fait son truc dans son coin?
Non, ni l'un ni l'autre. On se connaît, on se côtoie, sans plus. Après, moi, j'appellerai pas ça de la concurrence, parce que plus il y a de films romans, plus il y a de films suisses. Je parle de films romans parce que c'est quand même des films qui sortent pas en même temps, donc on est vraiment pas du tout en concurrence avec les films alémaniques, je vais dire. Mais plus il y a de films qui se font en Suisse, mieux ce sera. Plus ce cinéma sera écouté. Je pense que le public est plus ouvert aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans à imaginer le samedi soir aller voir un film suisse sans se dire ça va être forcément lent, ennuyeux, problématique, nombriliste, etc. Je pense que ça l'est toujours en partie pour certains films. Enfin, c'est des questions, mais on va voir un film asiatique, on va voir printemps, été, hiver, automne. Personne ressort en disant c'est lent, ennuyeux, etc. Non, c'est un film qui a un rythme, et je pense que chaque cinématographie a son propre style, qui peut peut-être se reconnaître, même si chacun l'interprète d'une façon différente. Donc voilà, moi je suis très content de cette, ce qui n'est pas une concurrence, du fait qu'il y a de plus en plus de films. Mis à part ça, je ne reconnais pas de famille, il n'y a pas de clan dans lequel j'ai l'impression de participer à une vague, à un mouvement. Non.
Vous êtes trop peu pour faire une vague?
Ouais, et puis ce serait faire une tempête dans un verre d'eau, parce qu'il ne faut pas oublier quand on fait du cinéma. Pour la Suisse romande, c'est 1,5 million d'habitants, donc c'est comme si on faisait du cinéma pour le 16e, 17e et 18e arrondissement à Paris, donc ce serait faux de se gargariser en disant oh, on a fait un succès. Bien sûr que c'est génial si tout d'un coup, j'ai la chance, le film qui est sorti mercredi a fait déjà plus de 3000 entrées en 5 jours, donc c'est une chance extraordinaire, moi j'en suis super heureux. Mais après ça, c'est voir sur la longueur, voir ce qui se passe, voir s'il tient en scène, voir s'il va être aussi écouté, être compris en Suisse alémanique. Donc voilà, pas envie de faire de vagues, envie de faire son travail et d'avancer.
Pour l'instant, La Vraie Vie est ailleurs. Comment il est reçu dans les salles? Vous avez eu des échos déjà?
Mais justement, ce chiffre donc assez faramineux.
Oui, les gens l'ont peut-être vu, mais l'ont peut-être détesté.
Alors j'attends toujours, voilà, les 3000 personnes qui viennent sonner chez moi pour se faire rembourser. Je me suis dit, mais ils sont peut-être trompés. Ils voulaient aller voir Casino Royale et ils se sont trompés de pièce. Donc moi, j'en suis que charmé. C'est vrai que jusque-là, le film a passé de festival en festival. Dans un festival, les gens, ils ont payé leur abonnement, donc ils allaient voir un film ou l'autre. C'est égal, même s'ils vont voir un mauvais film, ils sont contents de polémiquer dessus, donc il n'y a pas un engagement tel que le cinéma, qui est malheureusement très cher en salle ici, en Suisse, comme partout, des gens qui payent entre 12 et 17 francs suivant la salle et l'abonnement pour aller voir un film, ça, pour moi c'est une responsabilité. Pour moi c'est vrai que j'ai pas envie que ces personnes, ça concerne pas mon ego, c'est concernant ce travail, concernant les gens qui ont travaillé dessus. J'ai envie que les gens ils soient contents, qu'ils se ressortent avec du rêve, avec du plaisir, avec du bonheur, avec des questions, avec des réponses, avec un peu tout ça. Et voilà, bon, le bouche à oreille fonctionne, sinon il y aurait pas autant de gens. Donc c'est que les gens se sont donné le mot et ont envie d'aller le voir. La suite, on le verra dans quelques semaines, s'il est encore en salle, s'il est retiré parce qu'il est écrasé par d'autres productions plus importantes. Seul l'avenir nous le dira.
Mais il y a un peu ça aussi, c'est complètement aléatoire, dans le sens où tout à coup, boum, il y a le nouveau James Bond et votre film, on n'en parle pas. Ben, s'il est plus petit.
Voilà, alors ça c'est tout.
Donc
le talent
c'est juste
du distributeur.
De...
On va pas sortir un film comme ça juste avant Noël, lorsqu'il y aura un Seigneur des Anneaux, un Harry Potter, un James Bond. Donc il y a des plages comme ça durant l'année qu'il faut éviter. Et puis c'est vrai que Agorafilm, Laurent Dutoit à Genève, et qui a beaucoup beaucoup aimé le film... il le vend comme le meilleur film des 15 dernières années au niveau suisse romand, donc ce qui est toujours très drôle, donc ça devient son leitmotiv. Ça c'est pas pour envoyer des fleurs, c'est que je trouve c'est que tout d'un coup j'ai découvert quelqu'un qui avait envie de défendre ce film jusqu'au bout, et lui m'a dit en août, ah non, on va pas le sortir cet automne, il y a trop de choses, il y a justement le film de Bron, de Bayard, il y a les grosses productions américaines avant Noël, on va attendre le 17 janvier, ça va être une super date. Et puis on est arrivé au 17 janvier et il y avait en effet 2-3 films qui sortaient en même temps, mais rien qui imposait aux salles de dire bon ben maintenant on liquide tous ceux qui font moins de 100 entrées par jour, parce qu'on doit réserver 3 écrans à telle production, et etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un coup de bol, c'est vrai qu'il a fait pas très beau, pas très mauvais, les gens sont pas allés skier. Après, ça, c'est une grosse loterie, mais c'est aussi un très bon film, ne peut juste ne pas trouver sa place sur ce sorte de plaque qui tourne, et tomber juste un mauvais week-end ou un mauvais moment, et tenir une semaine avec 150 personnes à la fille en salle, quoi.
D'où l'importance de bien planifier les choses, là.
Oui, de bien planifier, de bien être entouré, d'avoir des gens motivés, et puis d'avoir, d'avoir une bonne étoile à ce moment-là, sur ce projet-là, quoi.
En parlant d'étoiles, on va en suivre encore une en musique. L'étoile Goran Bregovic, un monument à lui tout seul. Maki, et ça c'était sur une de ses bandes originales de film ou pas du tout?
C'était sur une compilation de musique qui s'appelle, j'ai pas le disque sous les yeux, mais de toute façon ce qu'on est en train d'entendre c'est un autre morceau, vu que c'est le début de la musique de La Brivier Tailleur, hein, c'est la musique générique de fin.
Ah bah voilà.
Finale. Donc même pas besoin de parler de Goran Bregovic, je crois.
Méga mea culpa quand même. Ce n'était pas Goran Bregovic, c'était à nouveau Piero Detta sur la bande originale du film La Vraie Vie est ailleurs. Donc voilà, fallait quand même préciser parce que Goran Bregovic c'est un petit peu plus festif, on dira.
Comme on dit tout de suite, la musique est triste.
Ah non, elle
non, je rigole. La musique est beaucoup plus en effet musique de ballet, musique entraînante comme ça.
Et puis ces musiques que vous avez choisies, c'est un peu du voyage aussi. Il y a que ça dans la vie, la quête de l'ailleurs.
Oui, même si des fois elle se fait où je me trouve, donc à Genève ou à Lausanne ou à Fribourg. Mais je pense qu'il y a. J'habite au Paquis, par exemple, à Genève, et pour moi c'est le plus beau quartier de Suisse romande parce que c'est celui où il y a le plus de voyages. Alors ça, c'est on entre sur un autre débat et un autre thème, mais je trouve que c'est le seul quartier dans lequel les étrangers ont. J'ai l'impression de rencontrer des étrangers, que les étrangers ont le droit de vivre sans être complètement intégrés, assimilés, transformés en Suisse. Et c'est vrai qu'au Paki, l'été, on marche et c'est une sorte de travelling sonore où on parle albanais, on va parler portugais, on va parler tchèque, on va parler arabe. Et dans la même rue, je pense par rapport à des quartiers justement français où il y a des sortes de ghettos plus seconde génération du Maghreb ou plus chinois ou plus. Etc. Là, il y a vraiment une sorte de travelling qui fait qu'à chaque terrasse de café, il va y avoir une nationalité différente. Et ça, c'est pour moi, c'est mon voyage quotidien, on va dire.
C'est aussi un voyage que vous faites à travers votre travail, puisque vous avez déjà pas mal voyagé. Nejad, par exemple. Enfin, il y a quelques noms qui paraissent pas très suisses dans votre filmographie, pas mal de courts-métrages que vous êtes allé filmer ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers ces films où on part tout le temps?
Ah, alors on part ou on y vient? Anedjad, par exemple, c'était mon film de diplôme, qui était un court-métrage que j'ai fait en 98, 97. Et c'était déjà dans un train, donc tout une obsession, même si entre-temps, j'y suis pas forcément retourné dans ces trains.
C'était des thérapies pour cinéma, ça.
Voilà. Et ça part, en effet, sur un train qui entre à Val-Orbe et un contrôleur, enfin, qu'est-ce que j'allais dire, un douanier, qui sort un homme bosniaque qui s'appelle Nejad du train parce qu'il n'a pas son bon visa, son bon tampon, etc., alors que lui veut aller à Zagreb, et ensuite Sarajevo. Et ça va être l'histoire de l'homme suisse qui était en face avec lequel il était en train de discuter, qui va être un peu à la quête de cet homme. Donc c'est sûr que c'est ma manière de parler de l'ailleurs ou de l'étranger, tout en étant en Suisse, tout en étant ici et en regardant qu'est-ce qui se passe.
Mais dans la vraie vie est ailleurs, il y a quand même une petite séquence assez, on dira, engagée par rapport à la politique suisse, par rapport aux étrangers que la Suisse héberge. Ça, c'était une volonté personnelle de mettre un peu d'esprit critique dans le film.
De toute façon, pour moi, je suis toujours un petit peu à la frontière. Pour moi, c'est très important de ne pas faire de cinéma militant, même si j'ai des idées très claires. Enfin, au niveau politique, j'ai des choses que je défends. Et l'intégration ou l'acceptation de la mixité des cultures et des populations en Suisse est pour moi très, très importante. Et je trouve qu'il faut vraiment s'opposer à cet esprit de la droite, cet esprit UDC qui est en train de tout écraser, toute humanité en Suisse. C'est très très important pour moi de lutter là contre. Mais à travers mon cinéma, à travers ce que j'essaye de faire, mon cinéma est peut-être un bien grand mot, ça va être très important de ne pas être militant, donc de pas, parce sinon c'est que convaincre les gens déjà convaincus, c'est aller seulement sur une petite parcelle de gens qui pensent la même chose. Pour moi, c'est vraiment plus raconter des histoires, emmener au voyage, et là derrière, si on ressent un engagement, si on ressent un point de vue, mais encore une fois qui doit venir des personnages, qui ne doit pas venir du réalisateur, on ne doit pas se dire là le réalisateur a voulu expliquer que si tout d'un coup là il y a un personnage qui se révolte ou qui a tout d'un coup quelque chose à dire, il faut qu'il puisse le dire, mais pour moi il faut rester très très sur la réserve parce que j'ai pas de discours à faire, en tout cas à travers le cinéma j'ai pas de message à passer, j'ai quelque chose qui peut être compris en sous-texte, que les gens peuvent être touchés, mais dont ils doivent pouvoir aussi ne pas être heurtés ou se dire ah ben il est pour ceci ou il est contre cela, j'aime ou j'aime pas. Et je pense que ça doit être plus subtil. Sinon on n'est que dans la polémique, on est l'affirmation de ce qu'on pense et cette affirmation n'est jamais forcément certaine ou à 100%.
Est-ce que cette volonté de ne pas heurter, c'est aussi une volonté d'avoir le plus grand auditoire, le plus grand nombre de spectateurs possible?
Non, même si je pense que c'est important de faire des films pour un public et pas faire juste des films pour faire justement une thérapie sur le train ou etc. Je pense que ce serait une très mauvaise raison. Même si on parle toujours avant tout de soi et les comédiens parlent d'eux et la scénariste parle d'elle-même, je pense que ce serait faux de dire qu'on parle d'autre chose que de soi-même. Ça serait pas être sincère. Maintenant, ensuite, c'est pas ne pas heurter, pas ça me gêne pas du tout de dire des choses à contresens d'un politically correct ou etc. C'est d'aller voir un film et de se dire voilà, ça c'est un film qui défend tel parti ou telle idée ou tel non, moi j'ai des valeurs avant tout humanistes avant d'être de gauche, de droite, de tel parti, enfin avant d'être plus quand même de gauche que de droite, c'est un fait, mais néanmoins mon intérêt c'est de poser des questions, et on pose pas des questions avec un étendard en affirmant quelque chose dans la rue en hurlant, parfois peut-être faut le faire, mais si le but c'est d'interroger, c'est que les gens se remettent en question, c'est peut-être sur des choses plus fines, plus subtiles qu'il est intéressant de mettre le doigt.
Ouais, belle politique, c'est vrai que ça se fait pas très UDC.
Bon, d'accord, merci.
Je sais pas si c'est un compliment pour tout le monde, mais bon, voilà. La vraie vie est ailleurs, c'est finalement une sorte d'aboutissement, parce qu'il y avait déjà eu, par exemple, justement, un Nejad qui se passait dans un train, il y avait Genève-Marseille, qui est donc une partie de ce voyage aux destinations multiples dans La vraie vie est ailleurs. C'est l'aboutissement de tout ce que vous avez fait depuis cette école de photo, depuis les cales, etc.
Non, pour moi, c'est une marche supplémentaire, c'est un, lorsqu'elle est haute, route, est-ce qu'elle est basse, ça dépend, je pense que c'est un chemin un peu sinueux comme ça, caillouteux dans la montagne, et c'est un tournant parce que c'est sûr que c'est, par rapport à des courts-métrages où on va de festival en festival, parfois de diffusion TV, etc., mais on n'a jamais de retour, là c'est une confrontation à un public, à un grand public qui va décider d'aller voir le film ou pas, et ça c'est une chance extraordinaire parce que c'est une autre étape, c'est peut-être, on parlait de... du tour de référence sportive, on change peut-être de ligue, ou je sais pas, c'est égal, mais je sais que là, au milieu, j'ai aussi fait un court-métrage à la fin de l'année dernière, et que je vais faire un documentaire cette année, et qu'il y aura une fiction qui va suivre. Donc voilà, pour moi, c'est un pas de passé, c'est un seuil, mais il y en a encore beaucoup derrière.
C'est un seuil, mais en même temps, si le film, apparemment, pour l'instant, c'est pas le cas, je fais peindre le diable sur la muraille, mais si ça marche pas du tout, vous faites quoi après?
Autant de choses que si ça marche très bien, hélas, à savoir que, enfin, il y a un bon aspect là-dessus, c'est que je pense que je vais pas m'arrêter. Je pense qu'en effet, de se heurter à un échec en salle est difficile. Beaucoup de réalisateurs dépriment, partent en dépression, se suicident parfois. Il y a plein de, ou des producteurs, il y a beaucoup d'histoires tragiques là au milieu. Donc je vais pas peindre tout en rose. Et en même temps, je vais pas me plaindre. Donc, quel que soit le résultat, moi, je vais continuer à faire du cinéma. En l'occurrence, ça se passe très très bien pour ce film. J'espère que ça va continuer. Je touche du bois. Mais les gens vont le voir et semble-t-il ont du plaisir. L'autre aspect négatif, c'est que je pense qu'en Suisse, c'est peut-être un des défauts de la politique, c'est quel que soit le film qu'on ait fait avant, ça va pas changer votre avenir pour le suivant. C'est-à-dire que je pense pas que dans un pays où on dit « Ah, il a fait quelque chose, mais maintenant il a envie de faire ça, on n'a pas tout compris, carte blanche, parce qu'il faut lui faire confiance », à chaque fois j'ai l'impression qu'il faut remontrer, reprouver, réexpliquer, reconvaincre. Et je parle pas pour moi, parce que j'ai encore tout à convaincre. Je pense à un Alain Tanner qui a fait des bons films, qui a fait des mauvais films, mais lui se retrouve au terme bientôt de sa vie, à la retraite, vu qu'il a arrêté de faire des films depuis Paul s'en va, et il se dit ben voilà, moi j'ai fait plusieurs millions d'entrées avec certains films, quand je présente quelque chose, on me dit encore oui, mais il manque une page au dossier. Et voilà, des fois, envie de se dire bon, ben il y a peut-être des gens qui ont déjà fait beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en avant et soutenir et aimer plutôt que de toujours tout remettre en question.
Bon, on va soutenir de nouveau quelqu'un, et ce coup-ci, ben, c'est de la musique. Orisha se représente.
Cadencia, represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Yo. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia. Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, Habana. Un sentimiento de manana. Habana. Todo eso representa
Cuba. Cuba, orillas donde la onda.
Especulando en el micro, escucha como dice Michael Nico. La música cubana vale mucho, chico. Mi funk estilo, mira, viene de La Habana.
Baba, vas-y, bouge ton cul sur le beat, écoute ça. Je prêche pour ma chapelle, Panam. Je représente, gars, mes reflets de la Havana. Je rap, c'est mon dada. Michael Nico, chico, soy loco, siempre flow. Je représente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. Je rêve de belles nanas sur la plage de Gros Havana. Pavané, sous les palmiers à fumer, je représente ça.
Sabor a melao de caña. Ay, dime si te
hey, yo, representando a los orichas de mi Cuba. Monforio, barrio, lofin hasta la sepultura.
Represente la salsa, beat, hip hop, usa el cero.
Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona. Pa' La Habana yo me voy.
Yo
représente le blanc, le noir, le chico, la chica, Chicago à Panama, Tokyo à la Havana. Je représente la fiesta, le son des congas du mec en gras.
Saca los collares que llego Chango, Chango.
Hey bro, él es guá, Chango, Batala, Yemaya, Ochun. Más fuere fue un orulo y que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento.
Cuba, orillas donde ande.
Après la Suisse et le Mexique, Cuba, ben, le voyage est presque complet, si ce n'est qu'il faut qu'on aille encore faire un petit tour avec notre ami Mike et sa plume acerbe, ou plutôt son clavier à facettes multiples.
Ça n'engage que lui. Avec Evoque, votre spécialiste en informatique à la route des Arsenaux 9 à Fribourg.
Clavier à facettes multiples. Ah, c'est joliment dit ça.
Vous, hein, je trouve ça,
ça me plaît, ouais, c'est, ça change les transitions, Thierry Savary. Hein. Monsieur, dame, mes respects. J'ai un peu écouté ce qui s'est dit à l'ombre du Baobab et à défaut d'avoir eu la chance de le voir, ce premier long métrage de Frédéric Chauffat. Il y a une de vos sorties qui m'a marqué en début de causerie. Pas de scène X dans le film. Ah ben zut alors, moi qui étais prêt à aller le voir. Non, pas que je sois un gros pervers, non, non, je prends même de temps en temps le temps d'aller voir des dessins animés de Walt Disney, même que je ris beaucoup, qu'il m'est arrivé de pleurer, par exemple quand la maman de Bambi s'est fait descendre par le chasseur. Je me rappelle qu'à l'époque, je devais bien avoir 8 ans, je m'étais juré que jamais je ne mangerais de la viande de chevreuil. Qu'est-ce qu'on peut être con quand on est môme, hein. Heureusement qu'à l'âge adulte, j'ai découvert que la selle de chevreuil pouvait être délicieuse et autrement plus confortable que la selle d'un cheval. Bon, où c'est que j'en étais là? Je m'égare à parler de bouffe. Ah oui, les scènes de sexe, sexe et bouffe, c'est de survie, décidément aujourd'hui. Votre film, Frédéric, se passe dans un train où des couples se rencontrent, se font et se défont. Il n'en fallait pas plus pour titiller les hormones de votre chroniqueur, parce que moi, ça a toujours été mon fantasme de faire ça dans un train. Ne riez pas, c'est tout à fait sérieux. C'est pas plus bête que de faire la chose dans la paille. Hein. La paille, ça pique, ça donne le rhume des foins, alors que dans un train royal, ça ne se coupe pas trop, les banquettes sont moelleuses, pas besoin de conduire, et surtout, il n'y a plus ces horribles odeurs de fumée froide depuis que la cigarette est interdite. Il y a toutefois des conditions qui doivent être strictement rempli si vous désirez faire la chose en toute tranquillité. Premièrement, ne prenez jamais un train régional, sinon il y a le contrôleur qui passe toutes les 5 minutes, qui frappe à la porte du compartiment. Prochain arrêt, Belfort, veuillez présenter tous les billets, s'il vous plaît. Choisissez aussi un train de nuit. La nuit, c'est tellement plus intime, tellement plus excitant, puis ça évite d'avoir les vaches qui vous regardent. Et oui, les temps changent, mais il y a des images d'Épinal qui sont immuables. Les vaches qui regardent passer le train en font partie. Pauvres vaches qui, avec le TGV, se chopent des torticolis tellement ça va vite. Et après, bien sûr, quand vous achetez un rôti de bœuf dans le cou, vous vous cassez la dent. Donc si la viande est trop dure, ce n'est pas la faute de ces pauvres éleveurs. C'est la faute aux trains qui vont trop vite. Voilà au moins un cliché que vous pouvez oublier. Dans le genre cliché, pas toujours très sympa, il y a le cinéma qui est trop cher, il y a les trains qui ne sont jamais à l'heure. Or là aussi, les esprits doivent tant soit peu évoluer. Allez voir le premier long métrage de Frédéric Chauffat, un film dont Sophie dit du bien ne peut pas être complètement mauvais. Et pour ce qui est des trains, bah, tant que vous faites ce que vous avez à faire discrètement et rapidement entre deux haltes, on ne devrait pas prendre trop de retard. Bonne journée et bon voyage.
Ça c'est dit, ça c'est fait.
Alors c'est faux, c'est faux, c'est faux, monsieur Mike. Parce que je voulais dire quand même, il y a une scène d'amour dans le film, donc tu ne seras pas totalement déçu.
Oui, mais une scène d'amour, pas une scène X. Je crois que la différence est là.
La différence est là, mais il y a quand même une relation et une scène d'amour. Et le film a failli être interdit de tournage, si j'ai encore juste le temps de raconter cette anecdote.
Non.
Où le jour avant le tournage, les autorisations qu'on a eues au CFF, vu qu'il y avait des trains italiens, allemands et français, le responsable porte-parole des CFF nous a dit « J'annule tout !» Il n'y a plus de tournage, vous avez besoin d'un train, vous allez tourner une semaine dans un compartiment couchette, tous les collègues se rient de moi, c'est certainement un film porno. Donc ça aurait été un autre film, on peut le refaire pour votre collègue si vous voulez.
Non,
mais ce n'est pas le cas et on a réussi in extremis avec des lettres de promesses qui, bah, voilà, etc. pour qu'ils soient d'accord de nous donner l'autorisation de tourner dans le train.
Mais un wagon couchette, c'est pour dormir, c'est pas pour... C'est pour se coucher, c'est pas pour coucher.
C'est pas un wagon dormir, c'est un wagon couchette, donc on en fait ce qu'on en veut.
Ok, bah heureusement, il est là ce film dans les salles à peu près partout en Suisse romande depuis le 17 janvier. Et pour longtemps, j'espère, La vraie vie est ailleurs de Frédéric Chauffat. Merci d'être venu et puis on vous attend pour votre prochain film.
Bah merci, je vais garder mon hamac dans le baobab et je vais rester, faites gaffe.
D'accord, ça marche. Elle reste aussi, enfin elle débarque, Amaëlle qui nous a rejoint, qui bonjour, va commencer Sophie. Son émission. Mais bonjour Amaëlle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au programme ?
Aujourd'hui, au programme, il y a le spectacle de Sandrine Viglino.
Sandrine Viglino, La soupe est pleine, c'est
ouais,
ça ?
Oui, qui accompagne Yann Lambiel.
Yann
Lambiel, tout bon spectacle,
tout
c'est
à
bien.
Tout à fait.
C'est très sympa. Donc, elle vient jouer dans elle fait une tournée dans les bistrots, c'est assez intéressant. Donc là, elle veut jouer dans un restaurant gastronomique à Vaurus et les Colombettes. C'est assez célèbre. C'est en fin de semaine et on parle du spectacle tout à l'heure.
D'accord, ben. Et bonne émission.
Et merci ça, Sophie. Et à très vite.
Certes, oui.
Salut.
Salut. Radio Fribourg.
DB Boulevard, est-ce que ça veut dire boulevard de Bérolles ?
Radio Fribourg avec Amaël. Radio Fribourg présente Luna avec DJ Mauro Cat. Luna, 60 minutes dans la chill out zone de Radio Fribourg. Tous les dimanches soirs de 22h à 23h, Luna sur Radio Fribourg. Luna, chill out zone by DJ Mauro Cat.
Détendez-vous tous les dimanches soirs de 22h à 23h.
Luna sur Radio Fribourg.
Je voulais vous parler et puis paf, la promo Luna comme ça qui part toute seule, que j'ai même pas eu le temps de vous dire bonjour. Bonjour à vous. Alors, ravi de vous retrouver à 10h passé de 31 minutes. La citation du jour de François Cavana, extrait d'un de ses petits bouquins intitulé Coup de sang. Et la citation dit, la raison, c'est comme le reste. Si tu ne t'en sers pas, ça rouille. La raison, c'est comme le reste. Si tu ne t'en sers pas, ça rouille. Très belle journée, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'en début d'après-midi. D'ici quelques instants, la journée spéciale Kylie Minogue et puis l'agenda du jour.
C'est pour dîner ? Non, c'est pour faire un tennis, connard.
Live Music Production présente Jean-Marie Bigard dans son nouveau spectacle Mon Psy va mieux, jeudi 1er février au Patinoire du Littoral à Neuchâtel. Prélocation à la FNAC et par Ticket Corner. Bigard, Mon Psy va mieux, jeudi 1er février au Patinoire du Littoral à Neuchâtel. Un spectacle événement Live Music Production.
Chez Coop, découvrez cette semaine nos actions à petit prix. Par exemple, 250 g de saumon fumé d'élevage d'Écosse à 9,90 € au lieu de 19,80 €. Le baril de 54 lessives d'Ariel classique ou color à 17,90 € au lieu de 30,80 €. Profitez ! Coop, pour moi et pour toi.
Inforoute Radio Fribourg.
0842 363 363.
Bah, autant ça a été la galère ce matin, puisque 90% d'entre vous a été surpris par la neige sur la route, autant là, on dirait que vous êtes tous arrivés à bon port, tous arrivés au boulot. Je pense que les saleuses, elles aussi, ont pu doucement faire leur boulot. Et alors, pour l'instant, plus de soucis à vous signaler sur le réseau routier fribourgeois. Quoi qu'il en soit, bien sûr, vous